Colloque éthique. Conclusion.
Bonjour,
Bonjour
je suis
Sophie.
ravie de vous accueillir.
Merci, avec grand plaisir.
Alors, oui, parce qu'il fallait au moins un philosophe. Là, vous avez vu ce colloque, nous parlons de l'éthique, de toutes les problématiques qu'il peut y avoir aussi bien en politique que dans les entreprises. Je voudrais comprendre ce qui se passe. Il y a un véritable déclin. Je vous écoute souvent et je sais que vous avez pas mal une analyse assez forte là-dessus, mais d'abord, exemple, je voudrais commencer par ça, parce que vous avez été ministre. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel déclin, que les gens savent plus se tenir, qu'est-ce qui se passe déjà en politique?
C'est LFI surtout, hein. C'est pas à peine de tourner autour du pot. Le Rassemblement national se tient convenablement, la droite, d'une manière générale, se tient convenablement. Maintenant, quand on parle de déclin ou quand on veut parler de déclin, il faut toujours, chère Sophie, avoir une date de référence ou une époque de référence, puisque déclin, ça veut dire que il y a une décadence à partir d'un certain moment. Voilà, une déréliction à partir d'un certain moment. Donc, si on prend comme point de repère, par exemple, les années 30, la corruption de la classe politique était beaucoup, beaucoup plus sévère qu'aujourd'hui. Alors, certes, ils étaient mieux habillés que Boyard ou je sais pas que ou Mathilde Panot, mais et puis ils parlaient mieux. Bon, évidemment, la rhétorique était encore celle de la Troisième République, mais néanmoins la corruption était maximale et je suis pas sûr que sur le plan moral ça allait beaucoup mieux. Et puis quand même, je vous rappellerai que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ce
Oui.
qui fait qu'il est difficile de parler de déclin à partir d'une date, d'une période où les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Donc si
Culturellement,
vous...
je comprends tout ce que vous dites. Alors, j'ai quand même l'impression que depuis une vingtaine d'années, alors, est-ce du
C'est là
le
que
wokisme,
ça s'aggrave.
par exemple, c'est pas un progrès? J'ai
Non.
l'impression aussi que les réseaux sociaux rendent les choses très difficiles. J'ai l'impression, on en a parlé, que quand on explique à des enfants de 4 ans qu'ils peuvent choisir leur sexe et que comment ils doivent se comporter, et que j'entends des enfants qui disent, moi, je me bouche les oreilles parce que j'aime pas entendre ce qu'on me dit. Donc voilà, je pense un peu à une espèce d'ambiance. Qu'est-ce que
Oui,
vous en
mais
pensez?
là encore, il faut prendre une date, il faut prendre une référence. Si on prend comme référence les années 30, voilà, on a Franco, Hitler, Staline, Mussolini, Salazar. Bon, et regardez même encore dans les années 60-70, sur le plan politique en tout cas. Puis je vous dirai après pourquoi je suis quand même à certains égards d'accord avec vous, mais soyons prudents. Sur le plan politique, on s'apprête à avoir une guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui va faire 65 millions de morts. Et même si vous prenez les années 60-70, la révolution culturelle chinoise, donc on regarde le monde entier, 70 millions de morts. Le cœur de l'Europe, Franco est encore vivant, il meurt en 74. Salazar, la révolution des œillets au Portugal n'est pas faite et la Grèce des colonels est un régime fasciste. Donc, d'une certaine manière, il faut pas tomber dans cette idéologie. Bon, certains collègues qui ne font parler que de décadence et de déclin, il y a des progrès absolument formidables. Maintenant, ce qui se passe en France depuis une quinzaine d'années n'est pas
Ça
bon.
remonte le
Et
moral
là,
déjà.
encore une fois, le communisme est mort, le nazisme est mort. Et en plus, vraiment, il représente plus rien aujourd'hui en Europe. Rien, zéro. Donc, c'est quand même une formidable nouvelle. Et puis, regardez l'Amérique latine.
Pardon, je vous interromps. Vous parlez de nazisme, certes, mais ce qu'on est en train de voir quand même dans la guerre entre Israël, le Hezbollah, etc., oui, c'est moins pire parce que tout est
Ben,
moins
ça n'a rien
pire
à voir.
que la concentration, mais c'est quand même pas
Il n'y a pas
terrible.
6 millions de juifs assassinés, il n'y a pas 65 millions de morts, donc on est à des années-lumière. Bon. Et puis
Oui.
en plus, bon, il reste. L'islamisme est un. Moi, je parle d'islamo-nazisme. On retrouve tous les traits du nazisme. La haine des femmes, la haine des juifs, la haine des lumières, la haine de la démocratie. Bon, ça, c'est vrai. Mais c'est un point. Donc ça, là-dessus, c'est sûr qu'on n'est pas en forme. Mais c'est pas toute l'Europe. L'Europe n'a rien à voir avec ça. Bon, c'est importé. Bon, donc je reviens. Et donc, encore une fois, prenez même les années 70. Au cœur de l'Europe, vous avez encore des régimes fascistes. Tout ça est fini. Voilà. Et donc, ça va quand même. Et puis, pensez à l'émancipation des femmes, à l'émancipation des homosexuels. Voilà. Pensez que c'était un crime avant, l'homosexualité était un délit, voire un crime dans certains pays, y compris la France. Bon. Donc tout ça a quand même formidablement progressé. Donc ce qui va pas, je dirais, c'est les 20 dernières années, surtout les 7 dernières. Parce que là c'est, voilà. On est passé, moi quand j'étais au gouvernement, la dette était de 1 000 milliards d'euros. Voilà. OK? Aujourd'hui, on est à 3 250 milliards d'euros. Et c'est ça qui va nous plomber de manière absolument dramatique. Bon, il y a d'autres sujets sur le plan éthique, sur le plan, je dirais même, spirituel. Mais sur le plan, je dirais, économique, ce qui va être absolument catastrophique, c'est le fait qu'on a, en plus, aujourd'hui même, un budget, celui de Michel Barnier, qui est, écoutez bien ça, il est à la fois anti-keynésien et anti-schumpeterien. C'est-à-dire qu'à la fois, il va plomber la relance par la consommation, la demande intérieure, et en même temps, il va plomber la compétitivité et l'innovation. J'en parlais avec, bon, je ne vais pas citer son nom, mais avec plusieurs très, très grands chefs d'entreprise, et qui me disaient, bah, c'est très simple, avec un budget comme celui de Barnier, on va, un, délocaliser un certain nombre de secteurs, deux, on va supprimer un certain nombre de projets innovants qui sont pas absolument, qui sont pas absolument utiles, ou en tout cas qui sont pas imminents dans l'urgence. Et puis troisièmement, on va resserrer la masse salariale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les économistes aujourd'hui reconnaissent qu'on va vers plus de chômage. Voilà. Et puis par ailleurs, ce que vous
Mais
disiez,
au mouvement éthique,
elle est vraie.
au
La
mouvement éthique,
vulgarité
on
de
le
l'extrême gauche est dingue. Et puis l'antisémitisme qui revient à l'extrême gauche. Mais ce qui est très bonne nouvelle, c'est que, en revanche, à ce qu'on appelle l'extrême droite, disons la droite, là, zéro antisémitisme. Hein. Bon, en tout
Mais
cas,
alors qu'on les a
leader,
accusés d'être
leader.
antisémites,
Voilà.
à la
Et
base,
c'est quand
c'est.
même le premier parti de France, le RN. Hein. Donc c'est quand même très important de voir que les leaders du RN défendent Israël et ne sont absolument pas antisémites. Voilà. Donc c'est quand même... Alors dans l'électorat, c'est peut-être différent, il faut être prudent. Mais en tout cas, chez les leaders, c'est du côté de la LFI qu'on voit les choses tourner à la catastrophe.
Alors,
Mais surtout.
justement, je vous arrête là parce que je suis évidemment d'accord avec vous. Cela dit, si le Premier ministre n'est effectivement pas bon du tout pour les entreprises en particulier, et à la tête du mouvement éthique, je me rends bien compte que les PME, c'est encore pire, parce qu'il y en a
Oui.
qui peuvent partir,
Oui.
mais
Il y a des
si
faillites qui se
il
profitent.
ne peut rien faire, parce que ce qui est très grave, et c'est là qu'on a l'impression de ce délitement, c'est qu'à notre Assemblée nationale, on y croyait, il n'est plus possible de faire quoi que ce soit. On peut mettre n'importe qui aujourd'hui qui va arriver à redresser la France. Et est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité de nous tous, de chacun d'entre nous?
Non. C'est pas ça, ça c'est trop facile. Non, il y a une vraie responsabilité des politiques et c'est pas la nôtre. Deux choses. Le budget actuel de celui qui est prévu par Michel Barnier ne rassurera ni l'Union européenne qui va nous mettre sous tutelle, comme la Grèce, ni les marchés financiers, ni les agences de notation, parce que c'est pas des clowns, ils savent lire un budget. Bon, et ces gens-là, ils savent très bien que un budget anti-keynésien, anti-schumpeterien qui va plomber les entreprises et qui va créer du chômage, c'est pas ça qui va les enchanter. Donc la punition va tomber. Et les taux d'intérêt vont encore augmenter. Je vous rappelle que la charge de la dette, ça va dépasser l'impôt sur le revenu. Parce que, bon, c'est dingue, c'est délirant ce qui se passe. Et Barnier aggrave encore les choses. Je suis désolé de dire ça parce que moi, je suis un vieux gaulliste. Bon, maintenant, si on veut changer la donne et si on veut qu'un. Alors, juste pour terminer sur le budget actuel, il vaudrait mieux que Michel Barnier propose un vrai budget intelligent, c'est réduction massive du nombre de fonctionnaires et augmentation du temps de travail pour ceux qui peuvent le faire et qui acceptent de le faire. Ça, ce serait un budget intelligent, quitte à sauter, on s'en fout. Mais au moins qu'il lègue aux autres et qu'il un message de vérité. Voilà. Je m'en fiche, moi qui. Et c'est ça le rôle d'un politique, c'est de dire la vérité. Là, c'est le contraire, c'est exactement l'inverse. Bon. Donc, on nous ment à jet continu. Donc,
Petit
c'est
petit en même temps.
Donc maintenant, si on veut aller au fond des choses sur le plan politique, puis après sur le plan spirituel, ce que je dirais, c'est que sur le plan politique, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Tant qu'on ne mettra pas les hommes de bonne volonté, je mets hommes avec un grand H, ça veut dire hommes et femmes, hommes de bonne volonté ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a six courants politiques, Sophie. On a les gaullistes, les LR, bon, enfin ce qu'il en reste, on a ce qui reste du PS, on a les deux extrêmes, disons le Rassembleur national et puis l'extrême gauche, on a les écologistes et on a le centre mou, avec Macron, Bayrou, etc. Bon, bah, le problème, c'est que ces six courants se détestent entre eux, ce qui fait que le président de la République, de toute façon, ne représente mécaniquement que 20% positivement de l'électorat. Voilà. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion le prouvent. Au premier tour, Macron a été élu avec 8 millions de voix. Il y a 47 millions d'électeurs en France. Donc, si on ne fait pas un système politique intelligent avec une proportionnelle intelligente, il y a beaucoup de sortes de proportionnelles, mais disons une proportionnelle intelligente, qui obligerait les personnes de bonne volonté à travailler ensemble, on n'aura pas un leader qui sera capable de faire quoi que ce soit. Parce que
Alors,
quand
vous
vous.
êtes président de la République ou Premier ministre, comment vous vous
Première chose
expliquez?
que je fais, la proportionnelle.
Alors, c'est-à-dire,
Immédiatement.
concrètement.
Je fais la proportionnelle, donc je mets en place un système qui ressemblerait au système allemand. Et ce n'est pas parce que l'Allemagne est aujourd'hui dans les choux à cause de la guerre en Ukraine, parce que c'est le fait que les pipelines, ils sont obligés de remettre des centrales au charbon. Bon. Mais néanmoins, leur dette, excusez-moi, mais leur dette est à 70% du PIB, la nôtre est à 120 ou 110 en tout cas. Voilà. Donc ils ont une marge de manœuvre. Voilà. Et puis
C'est
le choix.
facile de mettre en place une proportionnelle, comment on fait?
Le chômage en Allemagne est à 3,4, il est à 7 en France, il va passer à 8. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi.
Voter la proportionnelle, comment vous faites?
Mais la proportionnelle, je prends comme modèle, en gros, le système allemand qui oblige les hommes de bonne volonté, quand je dis hommes, c'est hommes et femmes, évidemment, mais je prends un titre célèbre, à travailler entre eux. Qu'est-ce qui empêche un Védrine de travailler avec un Juppé? Je prends exprès des personnalités qui sont plus dans l'action présente, mais
On a une baguette
même.
magique pour mettre ça en place, c'est-à-dire que demain matin, OK,
Mais ça,
la proportionnelle, qui le décide ça? Qui le
c'est fait dans
décide?
l'année. C'est fait dans l'année. Maintenant, vous avez un deuxième problème.
Constitution.
Je disais, il faut un vrai budget. Ce serait un budget dans lequel on supprime, on ne renouvelle pas le départ à la retraite de 500 000 fonctionnaires. On tue personne puisqu'on ne renouvelle pas des départs à la retraite. Ça te fait, et on supprime le millefeuille territorial. Par exemple, dans l'éducation nationale, on a une administration en région qui gère les lycées et la même en département qui gère les collèges. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, on gère ce millefeuille, on ne renouvelle pas. Et puis, d'autre part, il faut travailler plus simplement. Et là, j'en viens à ce qui, pour moi, est l'essentiel de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on discute là. Et ce n'est très, très loin l'essentiel. L'hostilité au travail. C'est ça le problème. Voilà. Donc, il suffit qu'on touche à la réforme des retraites pour que tout le monde est dans la rue. Ou si on
C'est jamais
augmente.
arrivé ça, l'hostilité au travail, c'est jamais arrivé comme aujourd'hui.
Non, c'est absolument récent et c'est très typique de la France. Et je vous explique pourquoi. À droite, on va dire, ah, les Français sont paresseux. À gauche, on va dire, ah, le capitalisme est trop dur. Les deux interprétations sont stupides. La vérité, c'est que ce qui s'est passé, c'est que les grandes religions, les grandes idéologies du bonheur après se sont effondrées. Pour les communistes, le bonheur, c'était après la Révolution, et pour les catholiques, le bonheur, c'était après la mort. Voilà. Pour les enfants, le bonheur, c'était après la classe. Pour les salariés, c'était après la retraite. Pour les communistes, après la Révolution. Et pour les catholiques, après la mort. Je vais vite, mais c'est vrai. Or, je vous donne les chiffres. Je ne sais pas pourquoi on ne les donne pas, mais c'est fascinant. Et ça explique tout ce qu'on vit aujourd'hui en termes de déclin, et notamment de rapport au travail. En 1950, et là, je prends un repère qui est clair. Pratiquement 25%, 30% de l'électorat français est communiste. Donc ces gens croient au bonheur après. Ils travaillent à la Révolution, on sera heureux après. Et je donne un autre chiffre qui est beaucoup plus frappant. En 1950, il y a 45 000 prêtres diocésains en France. Ils sont 4 000 aujourd'hui. Et écoutez bien, 95% des Français sont baptisés en 1950, ce qui veut dire les communistes aussi. On ne sait jamais. Ils sont 30% aujourd'hui. 4% seulement des Français vont à la messe régulièrement le dimanche. Je suis ni communiste ni croyant, c'est pas le problème. Mais je dis qu'on était dans le bonheur après. Maintenant, imaginez la chose suivante, et ça dit tout. Si je n'ai pas de deuxième vie après la révolution ou après la mort, si je n'ai qu'une seule vie, alors c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux, c'est pas après. D'où le coaching stupide dans les entreprises, les chief happiness officers, toutes ces conneries, il faut un cuit de bulot pour y croire, et puis le développement de cette psychologie positive et de ce développement personnel qui vous promettent le bonheur. Tout ça est idiot, c'est absurde. Mais si je n'ai qu'une seule vie, s'il n'y a pas de bonheur après, s'il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, c'est maintenant que je veux être heureux. D'où l'hostilité au travail. D'où le fait que, par exemple, dans la restauration et l'hôtellerie, où sont des métiers souvent, par exemple, le métier de serveur, c'est pas très reconnu socialement, c'est pas très bien payé, c'est très fatigant. Il manque 200 000 personnes aujourd'hui dans la restauration. Voilà. Et l'hôtellerie. Pareil dans les conducteurs de poids lourds, par exemple. Et donc là, vous avez des gens qui se disent, mais si j'ai qu'une seule vie, je vais pas la perdre pour la gagner. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Voilà.
Alors, comment on fait?
Ah,
On
d'abord,
plus
responsabilité des chefs
d'opinion, on
d'entreprise. Première responsabilité. Alors, il y en a deux. Je dirais pour les politiques, voilà, je vous le dis, si j'étais pour parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, président de la République, la première chose que je fais, c'est la proportionnelle, évidemment, mais intelligente. Il y en a plusieurs sortes, on ne va pas entrer là dans les détails. Et deuxième chose, il y a une très grande responsabilité des chefs d'entreprise, vis-à-vis notamment des jeunes, pour faire en sorte que l'entreprise soit vraiment un lieu de bonheur, si je puis dire, de bien-être, en tout cas, de sens. Voilà.
Vous le savez, alors là, je vous arrête.
Le capitalisme français, il a dégénéré.
On
Non,
n'arrête
non.
pas.
Non,
Mais
non,
si.
ça fait même pas 10 ans qu'on parle du bien-être en entreprise.
Ah non, d'accord.
Vous n'avez pas un seul livre sur le bien-être en entreprise avant la période actuelle, avant je dirais, les 15 dernières années. Voilà. Ça
Aujourd'hui,
n'est
on a tellement de mal à recruter, je pourrais même pas dire que c'est.
Justement, c'est ce que je vous dis, ouais.
Oui, on a tellement de mal à recruter, c'est tellement difficile que je vous jure que nos entreprises, d'ailleurs, bon, j'aime ma boîte, etc., à la fin des entreprises, on fait tout, on prend soin de leur santé, on
Mais c'est
accepte
nouveau,
le télétravail parce qu'ils arrivent
c'est
en disant,
nouveau.
bon, qu'est-ce que vous
Dans
avez pour.
les années 50, on s'en foutait totalement.
C'est
C'est
vrai.
nouveau, ça, voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, j'ai fait récemment une conférence là-dessus auprès de 500 chefs d'entreprise et je leur disais, alors, vous voyez bien, je leur disais, regardez, toutes les enquêtes d'opinion montrent que les jeunes diplômés, quand ils sortent de l'ESCP ou de je sais pas quoi, bon, d'une école de commerce, ils ont des exigences en termes de sens, en termes d'horaire, en termes de télétravail, etc., etc. Et en termes de RSE, en termes de RSE, écologie, etc. Bon. Je leur dis, prenez ça en compte massivement et tenez compte de cette mutation dans la génération X, Y, Z. Voilà. Et
Non.
ben oui, mais c'est pas évident, en
Ah, bah
fait.
oui, c'est tardif, on veut se
Parce qu'en
comprendre.
même temps, on a envie de leur dire, bah, attends, mais de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, bah, on travaillait, voilà, et arrêtez de vouloir être comme ça, dorloté dans du coton, qu'on vous offre tout, il faut aussi
Éducation
travailler.
nationale.
Voilà. Et vous connaissez le mot d'Yvon Gattaz, tout travail mérite salaire, il ajoutait tout salaire mérite travail. Pardon pour avoir été un peu grossier et brutal, je suis désolé, mais on est
Oui.
en visio et c'est fait que c'est comme si vous étiez dans mon bureau, donc on parle entre nous.
Absolument. Vous avez raison. Alors, j'ai bien compris. D'accord, on fait une proportionnelle, mais il faut encore que quelqu'un veuille. Deuxièmement, les chefs d'entreprise. Moi, je pense que la solution viendra des entreprises parce qu'aujourd'hui, on est obligé de les éduquer. Quand on a des jeunes qui arrivent dans nos boîtes, il faut tout leur apprendre
Oui.
à parler à un client, à dire merci, à dire bonjour, à rédiger. Je pique des colères quand il y a 5 fautes d'orthographe dans un mail. Donc bon, on est en train de faire ce qu'il faut, mais on est à peu près les seuls. Alors bon, à peu près les seuls, les chefs d'entreprise qui essayons un peu de rectifier le tir. Donc,
Parce que
je
c'est vital pour vous.
Pardon?
C'est vital pour vous. Voilà. Et puis l'éducation nationale est quand même dans les
Vital.
choux.
C'est
Voilà.
vital et vous pensez que ce déclin, parce que on en a parlé toute cette matinée,
Oui.
ce déclin, comment on redresse la vapeur? Je veux dire que les gens dans la rue, les gens partout, les agressions, bon d'accord, c'était pire avant, ok. Enfin, aujourd'hui, c'est pas terrible et puis ça s'arrange pas, de jour en jour, ça s'aggrave.
Je suis désolé, mais parce que vous allez le prendre mal, mais le prenez pas mal. Mais la déconstruction des autorités et des valeurs traditionnelles au XXe siècle, ce n'est pas les 68ards, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme, Schumpeter, ben évidemment, c'est une évidence. D'ailleurs, Schumpeter, qui est génial, le dit très très bien. Que ce soit dans l'art contemporain, la déconstruction de la figuration et de la tonalité, Schumpeter parle d'art capitaliste à propos de Picasso. Voilà. Mais sur la question des valeurs, Patrick Lelay l'avait très bien
Pensez
dit.
vraiment que le capitalisme,
Bien
c'est la cause de ce déclin?
sûr. Mais bien sûr. Bien sûr, c'est la première cause. Moi, je suis un libéral, donc je suis à la fois un républicain en politique et un libéral, alors beaucoup, beaucoup plus libéral que Macron en économie, parce
Parce
que
que
je
c'est
pense
certain, mais il n'est
que
pas libéral.
pour partager les richesses, il faut d'abord les produire. Bon. Mais donc, je suis totalement libéral. Mais la logique schumpeterienne de l'innovation permanente, c'est
Ah
une logique de déconstruction. Et donc, déconstruction, tous azimuts. Pourquoi? Écoutez bien ça. Si mes filles avaient les valeurs de mon arrière-grand-mère, elles ne consommeraient rien. Rien. Voilà. Il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites pour que nos enfants rentrent dans le monde de l'hyperconsommation. Et donc, y compris quand ils achètent des fripes et des objets de seconde main, c'est l'effet rebond, c'est pour consommer encore plus. La génération des 15-35 ans est la génération la plus consumériste de toute l'histoire de l'humanité. Voilà. Mais c'est à cause du capitalisme. C'est-à-dire que, encore une fois, le capitalisme a besoin d'enfants consommateurs, d'enfants zappeurs et consommateurs. Patrick Lelay l'avait très bien dit. Il avait dit, mon métier, ça consiste à accorder aux chefs d'entreprise des temps de location de cerveau vide. Mais ça fait scandale. Mais il disait la vérité, cet homme. Il avait raison. Voilà.
Bon, alors donnez-moi une solution, qu'est-ce qu'on fait? Le capitalisme, on a
L'éducation,
comme
on corrige
système.
le tir. On corrige le tir. C'est-à-dire que il faut
Alors.
évidemment être capitaliste et même très libéral en économie, mais il faut qu'on ait un système éducatif qui corrige le tir en revenant aux fondamentaux. C'était tout mon thème quand j'étais ministre. Que ce soit les fondamentaux en termes de grammaire, ou que ce soit les fondamentaux en termes de civilité. Je suis mais sidéré de voir que les cours d'instruction civique sont débiles. Aujourd'hui, on ne tient pas compte des réseaux sociaux, qui sont quand même les vases de la haine, du complotisme, des fake news, etc. Et si j'étais encore ministre, la première chose que je ferais, c'est de refaire de A à Z les programmes d'instruction civique, évidemment, à l'heure des réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les deepfakes et les jumeaux numériques, je peux mettre la tête d'une gamine de 15 ans sur un film X, le balancer sur les réseaux sociaux et la pousser au suicide. Mais en même temps, nos enfants, on va rentrer dans un monde avec les deepfakes et les jumeaux numériques où personne ne saura ce qui est vrai ou pas vrai.
Oui,
Voilà.
oui.
D'où un programme. Il faudrait qu'un programme scolaire aujourd'hui s'occupe des réseaux sociaux, s'occupe de l'intelligence artificielle et de l'esprit critique. Il faut apprendre à nos enfants. C'est pas parce que c'est une vidéo que c'est vrai. Je reçois toute la journée des vidéos. Je pourrais vous en montrer là, des vidéos qui sont des faux. Voilà. Et j'en ai reçu encore aujourd'hui de Mélenchon, j'en ai reçu encore. Laurent Alexandre a fait un jumeau numérique de lui-même qui a discuté pendant 20 minutes avec ses enfants qui ne se sont pas aperçus que ce n'était pas leur père.
Mais est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai vu un fake, mais c'est peut-être pas un fake, où Macron disait, je viens enfin de lire le livre de Luc Ferry, c'est une pure merveille et je vais tout changer.
Non, non, c'est une deepfake, bien sûr. Mais vous l'avez bien vu, oui.
Alors, mes questions, j'ai vu.
Voilà.
Question. Alors, je suis tout à fait d'accord et je comprends bien,
C'est
mais
terrible, ça
si
fait
on part
Marie-Louise.
par là, on les plonge encore plus parce que, alors, est-ce que moi je serais assez pour l'interdiction du portable à l'école? Et bon,
Ah
mais
bah,
en même temps,
ouais. Ça dépend dans quel cours. Il y a des
oui.
cours où ça,
Ah.
en géographie, ça peut être très utile. Mais bon, globalement, c'est sûr que c'est insupportable de voir des enfants qui prennent leur portable comme je suis en train de faire. Mais c'est parce que je vous cherche la vidéo en question parce que
Ah
c'est
oui, c'est une
les
merveille.
gens. Et essayez ChatGPT 4.0, vous parlez avec lui, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Tout à l'heure, je lui demande pour vérifier, je dis à ChatGPT, est-ce qu'on lui parle? Il parle aussi bien et aussi vite. Je lui dis, raconte-moi la polémique entre Edison et Tesla et dis-moi qui avait raison. Mais c'est dingue, en 10 secondes, il me sort toute la polémique, c'est parfait, je n'ai pas un mot à changer. Je lui ai donné 50 pages de mon livre à traduire en allemand, je n'ai pas une virgule à changer. Il a mis 6 minutes pour traduire pour dactylographier en Word 50 pages en allemand. Donc,
Alors, vous êtes très
faut qu'on
content,
en parle.
Laurent Alexandre. Moi, ça m'affole.
Ah oui, ça fait peur à tout le monde, bien sûr, même à Laurent Alexandre. On est tous affolés parce que quand ces IA seront rentrés dans les robots d'Optimus, ce sont des centaines de millions d'emplois qui vont disparaître. Des centaines et des centaines de millions d'emplois. Voilà. Et ça, là, je peux vous dire, traducteur, interprète, par exemple, c'est mort de chez mort. Voilà. Et en plus, quand vous aurez des robots, les robots d'Optimus qui auront ChatGPT 5 ou 6 ou 10 dans la tête, ils sont capables de faire les devoirs aux enfants, de servir à table, de vous faire un cocktail, d'aller faire les courses, etc. Donc, c'est des métiers entiers. Alors, je sais que Philippe Aghion et Gilles Babinet sont en désaccord avec ça, mais pardon, moi, je l'explique dans mon livre, argument à l'appui, c'est vers ça qu'on va. Et là, du coup, ça posera Sam Altman a dit, dans la décennie qui vient, et ça pour les chefs d'entreprise, c'est à retenir, nous aurons des licornes sans aucun salarié humain. Voilà.
Et là,
Et c'est Sam Altman
vous
qui
espérez
le
me
dit.
conclure mon colloque sur l'éthique. Vous espérez
Oui.
me conclure en me donnant un soupçon d'optimisme. Je suis désespoir absolu. C'est le désespoir.
Et pas du tout. Ça va
Comment
sauver des millions de vies. On parlait tout à l'heure
en faire de ces vies?
Ça va sauver des millions de vies dans le domaine de la santé, du cancer en particulier. Il n'y a pas de thérapie ciblée, il n'y a pas d'immunothérapie sans IA. Voilà. Donc on va sauver aussi des
Mais
millions de
qu'est-ce
vies.
qu'on
Le
va faire
problème,
de nos vies sauvées? Dans un monde
c'est...
comme ça.
Dans le livre que je vais publier là en janvier, j'explique qu'il faut absolument pas aller vers le RUB, qui est une catastrophe absolue, le revenu universel de base. Il y a d'ailleurs une enquête qui a été financée par Sam Altman parce qu'il voulait montrer que le RUB serait formidable, parce qu'évidemment, ces gens-là veulent mettre tout le monde au RUB. Et à l'allocation universelle, c'est pareil, au revenu universel de base. Bon, parce qu'ils se disent, nous, on va être milliardaires, mais on va foutre tout le monde au chômage. Donc, il faut qu'on les mette au RUB pour qu'ils aient quand même de quoi bouffer. Bon. Mais l'enquête qu'il a faite, c'est une catastrophe, Sophie. Le RUB, c'est, au bout de 2 ans, c'est la montée en flèche de l'alcoolisme, des suicides et des calmants, des anxiolytiques. Bon. Et donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, je suis absolument, et je pourrais développer ça longuement, il va falloir qu'on développe et qu'on étende le service civique aux adultes. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et ça va être une obligation. Parce que même si on ne travaille que 3 heures par jour, il faut que les gens retrouvent l'estime d'eux-mêmes, l'estime de soi, et puis qu'ils soient insérés dans un tissu social. Voilà. Et que l'argent qui sera gagné par l'IA serve à financer ça. Donc, je ne peux pas développer ça là, ce serait trop long, mais c'est la seule solution rapide et efficace au problème qui va se poser avec le développement de la robotique intelligente. On aura des robots polytechniciens. Agrégé de philo et
Bon,
de
alors,
biologie.
Mon cher Luc, juste une conclusion optimiste. Dites-moi tout de suite ce qu'il faut faire. On va mettre ça en place.
Non, mais moi, je suis très optimiste. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et que le monde dans lequel on pourrait rentrer peut être formidable si on s'y prend bien. Un, refaire de A jusqu'à Z les cours d'instruction civique pour contrer les effets de la déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles et revenir absolument aux fondamentaux dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le primaire, que ce soit l'apprentissage de la lecture ou que ce soit les mathématiques et les sciences. Bon. Deuxièmement, mettre en place un système électoral qui oblige les personnes de bonne volonté à travailler ensemble pour que notre président de la République soit majoritaire, qu'il ait une vraie marge de manœuvre, ce qui est exactement, même si Emmanuel Macron était génial, ce qui, à mon avis, n'est pas de cas, de toute façon, il pourrait rien faire. Voilà. Voilà. Et puis, troisièmement, il faut que les chefs d'entreprise, et je sais que c'est peut-être irritant, mais c'est une nécessité, ils tiennent compte de la réalité de la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Et de cette exigence de sens dont toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'elle est devenue majoritaire chez les jeunes et que quelquefois l'emportent eux-mêmes, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Non, il faut en avoir, mais sur la question du revenu, du salaire. Et donc, on a là vraiment 3 interrogations majeures. Et puis, quatrième, il faut remettre l'Europe, l'Union européenne d'aplomb, parce que la France seule n'y arrivera pas. Et là, on a une Europe, le rapport Draghi l'a montré, qui s'écroule bêtement dans une logique keynésienne, dans une logique d'écologie. Par exemple, le tout électrique en 2035, on ne peut pas faire plus bête. Mais c'est délirant. Mais c'est vraiment du suicide organisé. On déroule le tapis rouge pour la Chine. Vous avez vu que Northvolt vient de faire faillite, la plus grande usine de fabrication de batteries, que ArcelorMittal vient de fermer son site, voilà, parce que la demande s'effondre en matière d'acier pour fabriquer les bagnoles, en matière de fabrication des...
Je vous en supplie, dites-moi comment on va faire vite quelque chose de déjà pour aller mieux.
Il faut suivre le rapport de Draghi. Il faut qu'on investisse au moins 1 000 milliards d'euros dans l'innovation et notamment dans l'intelligence artificielle, évidemment. Là, on a une telle fuite des cerveaux dans le domaine de l'IA, mais c'est dingue. Yann Lequin est breton, il doit avoir une 60aine d'années. Moi, j'ai déjeuné avec lui. C'est lui qui a inventé l'IA moderne, d'une certaine manière, le deep learning. Bon, il travaille chez Meta, il travaille pas à Paris. Voilà. Et on a vraiment une fuite des cerveaux et il faut qu'on investisse au moins 1 000 milliards d'euros immédiatement dans la troisième révolution industrielle. Et ça ne peut être qu'un projet européen. Voilà. Et donc, il faut le faire, c'est tout. C'est pas une question de... Voilà. Mais là, on fait exactement le contraire. Voilà. On a des gouvernants qui nous plombent avec des budgets débiles qui vont plomber la compétitivité de nos entreprises et qui vont augmenter le chômage. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y peux rien, c'est comme ça. Voilà, donc il faudrait qu'on ait un vrai libéral là-haut, un libéral intelligent, ça veut dire quelqu'un qui soit républicain en politique et libéral en économie, mais qui fasse exactement le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Et dans toute l'Europe, on a besoin de ça dans toute l'Europe. On a besoin d'une Europe qui investisse dans l'innovation. Regardez le décalage avec les États-Unis aujourd'hui, c'est catastrophique.
Alors, pour résumer tout ce que vous dites,
tout
en fait...
Tout est faisable, Sophie, tout est faisable. Il n'y a pas de fatalité.
Pour accompagner tout ça, il y a aussi quelque chose de fondamental, et on va essayer de garder ça. Il faut d'abord une pédagogie des jeunes, des enfants, des citoyens. On ne leur dit pas la vérité. On leur raconte qu'ils vont passer à la semaine de 4 jours. On leur raconte que oui, la semaine à 60 ans, la retraite à 60 ans est possible alors qu'on vieillit plus vieux. Donc, moi, je me ressens sur mon retrouver une énergie un peu éthique. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Et ça passe par où en premier? C'est le mot de la fin.
Ben, en premier, ça passe par l'éducation, évidemment, mais l'éducation, comment dire, Victor Hugo faisait la différence entre éducation par les parents et instruction par les professeurs.
Bien sûr, bien
Mais il faut
sûr.
que les deux travaillent ensemble. Voilà. Pour ça que je dis que la première chose à faire, c'est la réforme des fondamentaux d'un côté, dans les sciences et les lettres, et puis de l'autre côté, la réforme de l'instruction civique. Voilà. Mais ça ne peut se faire qu'avec l'aide des parents, évidemment. Parce que l'éducation, c'est quand même d'abord les familles. C'est pas le rôle des enseignants, de remplacer les parents dans l'éducation des enfants. Leur rôle, c'est quand même de transmettre les savoirs, d'abord et avant tout. Mais le lien entre les deux, c'est la question de l'éducation civique, et c'est crucial. Et après, je vais pas radoter, mais il y a une responsabilité des politiques, une responsabilité des chefs d'entreprise, une responsabilité des parents, une responsabilité aussi de l'Union européenne, qui est en train de... Bah, Madame von der Leyen est la plus grande catastrophe qui soit arrivée à l'Union européenne.
Mais je crois que ce que vous venez de dire, c'est vraiment la conclusion, c'est le mot responsabilité, c'est la
Bien sûr.
responsabilité telle que vous l'avez
Et
décrite.
courage, lucidité, courage, voilà. Lucidité et courage. Et ça, c'est pas la quête narcissique du bonheur personnel. La lucidité et le courage, c'est le contraire. C'est comprendre ce qui se passe. Donc, c'est quand même l'intelligence de la situation et le courage de remédier. Mais tout est faisable. Simplement, il
Merci Luc. Et on va terminer là-dessus parce que
là-dessus.
je
OK.
sens qu'il y a une petite note d'optimisme que je peux garder. Donc merci infiniment Luc Ferry. On vous rappelle
Merci, ma
ça le
Sophie.
mois de semaine.
Bon, je vous embrasse. Merci à
Moi
vous.
aussi. Au revoir.
À bientôt.
Au nom de l'éthique, un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, jeudi 5 décembre 2024.